Ado, Plan Granado. Bonne année, bien fructueuse et heureuse. Alors, ce soir, en préambule, je vais faire un appel. Un appel à une pétition, c'est pas du tout une habitude, mais là vraiment, on est devant des faits où, effectivement, il serait bon de se manifester. Alors, il s'agit de sauver la vie d'un poète palestinien qui s'appelle Fayyad Ashraf, A-S-H-R-A-F, Fayyad Ashraf. Ce poète palestinien a été condamné à mort pour apostasie par des juges d'Arabie Saoudite. Alors, il lui est reproché, entre autres, essentiellement, d'avoir publié un recueil de poèmes en 2007, ce recueil s'appelait « Instruction interne », qui contiendrait des poèmes athées. Cette condamnation à mort intervient après déjà une première condamnation, condamnation à 4 ans de prison et 800 coups de fouet. Une journée internationale de solidarité afin d'exiger la vie sauve et la liberté pour Fayyad Ashraf est prévue pour le 14 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui. C'était donc dans le cadre de cette journée internationale que je vous parle de ce poète palestinien, Fayyad Ashraf. Alors, une campagne de soutien a été lancée, bien sûr, et la pétition de soutien et de protestation, vous la trouverez un peu partout, mais vous la trouverez bien sûr sur le site de cette émission les-poètes.fr. Voilà, alors nous commençons une nouvelle année, et cette année nous avons reçu janvier, février, mars 2016 le numéro 53 de la revue Nouveau Déli, revue de poésie vive animée par Cathy Garcia, et qui dit ceci. Après la panne d'édito, la panne de vœux. Même quand je travaillais dans le spectacle, je n'aimais déjà pas les répétitions. Je préférais le moment vrai et unique du spectacle lui-même, car dans le théâtre de rue, chaque représentation est toujours unique, remplie d'imprévus, d'inattendus. On n'y est pas à l'abri de la pluie, du vent, de toutes sortes d'obstacles et surprises, et surtout pas séparé d'un public qui, par une scène ou pire encore par une fosse, on est avec et dans le public, parmi les gens qui font et défont le spectacle, tout autant que nous-mêmes. L'idée même d'un public disparaît dans un échange interactif et vivant, une grande fête commune. C'est ça que j'aimais dans le théâtre de rue, le véritable théâtre de rue. Ce moment vrai qui nous mettait en danger, et je continue à préférer le spontané, l'imprévu, le non préconçu, et plus encore quand il s'agit de fêtes ou de belles déclarations. Faire un vœu, oui, pourquoi pas. Parce qu'il nous vient à la bouche comme une source jaillissante, ou parce que l'étoile filante. Si j'avais un vœu à faire, là maintenant, au moment précis où j'écris cet édito, ce serait « Délivrons-nous de nos certitudes ». On étouffe sous les certitudes. On en perd tout contact sensoriel avec la vie, toute capacité de penser de façon inédite et donc libre. Mes certitudes, vos certitudes, leurs certitudes. Les certitudes sont aussi nombreuses que les individus susceptibles de vous les asséner. Même les certitudes d'un groupe sont en réalité un assemblage de certitudes uniques, chacune attachée à un seul individu. C'est comme les patates, les ensembles qu'on nous faisait faire à la maternelle. Alors oui, pour y voir plus clair, il y a des certitudes qu'on peut mettre dans une même patate. Puis les patates empiètent sur d'autres patates, ce qui forme des espaces interpatates qui eux-mêmes empiètent les uns sur les autres, et au final, on a de nouveau un grand bordel auquel on ne comprend rien du tout. Alors, ouvrons toutes ces patates et délivrons-nous des certitudes. Voilà, c'est mon vœu instantané, il a disparu aussi vite qu'il a été formulé. Les patates mathématiques ne sont rien d'autre que des bulles qui nous éclatonnaient. Certaines sont très belles, tout dépend de comment elles prennent la lumière. Et voilà, tout dépend de comment on prend la lumière. Eh bien, ce soir, nous allons essayer, comme tous les jeudis, le poète, nous allons essayer de prendre la lumière. Dans ce bon numéro 53 de la revue Nouveau Delhi, il y a une kyrielle de poètes excellents, avec toujours une mise en page et des illustrations tout à fait remarquables. Illustration cette fois-ci d'Anna Minsky et des poèmes de Lou Raoul, de Mokhtar El Amroui, qui est un Tunisien, de Julien Boutreux, de Jean-Claude Gouary, de Denise Wetterwald, de Samy Sapin, de Tom Buron. Voilà, et ensuite, bien entendu, une critique, hein, des notes de lecture de, alors elle appelle ça elle, Résonance, Les Maîtres du Printemps d'Isabelle Stib, Serge Safran, éditeur, 2015, 181 pages, 17,90 €. Donc une note de lecture copieuse, hein, puisque c'est plusieurs pages. C'est vraiment très bien ce travail-là. Il est absolument indispensable pour la diffusion de la poésie contemporaine. Donc ce recueil d'Isabelle Stib, c'est le recueil d'un poète qui est né à Paris en 1974. Après des études dans le droit international, elle est responsable des publications La Comédie Française, puis Grand Palais, critique d'opéra. Actuellement, elle est secrétaire générale de l'Athénée Théâtre Louis Jouvet. Elle enseigne également à l'Institut d'études théâtrales de l'Université Paris 3. Et elle a publié Bérénice 34-44, c'est son premier roman, chez le même éditeur en 2013. Voilà. Alors, l'abonnement à cette revue, le numéro est de 6 € plus le port. Le port, c'est 1,50 € pour la France. Donc, si vous voulez ce numéro, c'est 7,50 €. Mais l'abonnement est de 28 € pour 4 numéros adressés à Association Nouveau Delhi. Les Tout, 46 330 Saint-Cyr-la-Popie. Vous avez toutes ces références sur notre site les-poètes.fr, ce bulletin de complicité où vous pouvez vous abonner à cette revue, à la rubrique parution. Voilà, je vais donner lecture d'un poème de Mokhtar El Amroui, qui est un poète tunisien d'expression française. Il est né le 19 mai 1955 à Matheur, en Tunisie, et depuis sa plus tendre enfance, il est passionné de poésie. Il a publié 2 recueils, le premier en 2010, intitulé « Arpèges sur les ailes de mes ans », et le second en 2014, « Le souffle des ressacs ». Les poèmes que vous allez entendre sont tirés de ces 2 recueils. Mokhtar El Amroui. La symphonie errante. Je cherche mes rallonges telluriques, mes incommensurables sphères dans les dilatations de l'exil. L'ombre ivre de ma soif dans la sécheresse de l'arôme somnambule. Je cherche mes imprécations, creusant les sillons du retour contre les serres des vautours. ton ombre aux aguets de cet éveil cinglant, érection du soleil à la symphonie errante du dromadaire. Je cherche le râle éclaté de mes vertèbres lyres en délire, s'étouffant de leurs notes déportées, mes soupirs tonnant de bleu fuyant dans l'inatteignable voyage de ce papillon qui s'éreinte en poursuite trébuchante au-delà de ses rêves brisés. Je rêve de comètes, d'astres flamboyants, de méduses lunes, ouvertures transparentes des inextinguibles profondeurs. Je rêve muet, dans la soif de tes pas, sur les sables du voyage, auxquels je t'invite vers les prairies rouges et leurs feux bleus. Ô muse de mon départ, astre scintillant, sur les lèvres ouvertes des vagues, il n'y a plus de toi, pluie enceinte d'encens rouge, sur tes seins embaumés, dans le linceul de l'extase des rencontres crépusculaires. Viens de mes reviens fatigués, je te prêterai les ailes immaculées de mes icares exilés. Je te montrerai l'axe de l'impact pluriel, l'agonie du cogito carnivore, ce manteau d'erreur spectrale. Viens, accroche-toi aux tiges sans amarre de cette forêt éclatée. Reviens de mes viens qui valsent dans l'aube des intraduisibles fermentations. Nous écrirons la grandeur du menu moineau et chevaux d'essence triangulée. Cet azur qui nous appelle nous retrace dans nos fibres de nouveau-nés. Reviens au commun des immortels mésanges assoiffés. Je te composerai sur le clavier des escaliers une symphonie qui te mène jusqu'à mon perchoir d'exilé. Béquet. Y viennent les vautours, aux lunettes académiques, nous tendre leur bec philanthropique, leur bec parfumé de sang frais, pour nous donner la béquet civilisatrice, la béquet technologique, à nous, bec bico, bec sec bourricot. Ils viennent nous donner la béquet art, la béquet dollar, la béquet science, la béquet culture, la béquet paix, la béquet liberté, la béquet H, la béquet bombe H, la béquet sous-traitance, la béquet inflation, la béquet chômage, la béquet bidonville, la béquet crachat, la béquet pillage, la béquet mensonge, la béquet toll, la béquet bourreau, la béquet barreau, la béquet bureau d'anthropométrie pour zouave négro. Je songe à leur bec qui partent et qui come back, à leur bec bombe, à leur bec mitraille, à leur bec canon, à leur bec napalm, à leur bec qui repartent bourrés de blé, d'huile, de gaz, de pétrole, d'or, de cuivre, de phosphate et de jeûne pour toutes sortes de corvées grises, noires et blanches camouflées. Je songe à leur putride bec proférant injures et menaces. Je songe aussi à nos becs secs, nos becs bico qui ont faim, qui ont froid, nos becs de proie pour grand bec trust. Mais de nos becs bico commencent à sortir des gazouillis, des grandes colères. Voilà, c'était Mokhtar El Amroui, poète tunisien, publié par Cathy Garcia dans la revue de Poésie Vive Nouveau Délit, dernier numéro, numéro 53. Ces derniers temps ont vu disparaître pas mal de poètes. Je parle à notre ami Gilles Presnigère, nous repasserons l'émission que nous avions faite avec lui. Et également, avant lui, peu de temps avant lui, Jean Joubert. Jean Joubert avec lequel on devait faire une émission. Et puis, nous avons eu tort de penser que nous avions le temps devant nous. Jean Joubert, qui était né le 27 avril 1928 à Chalette-sur-Loing, dans le Loiret, et qui est mort. Donc le 28 novembre 2015, il avait 87 ans. C'est un poète, mais c'était aussi un romancier. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit pour l'enfance et la jeunesse. Beaucoup de romans de jeunesse. Il faisait souvent dans les salons de livres. Il était souvent le compagnon de Michel Cozem, qui lui aussi a beaucoup écrit pour la jeunesse, soit des romans, soit des livres de poésie, se rejoignaient là-dessus. Et puis c'est Michel Cozem qui avait écrit une de ses premières biographies commentées, il y a de cela au moins une vingtaine d'années. Jean Joubert, que l'on voyait chaque année, lorsque Rodez remettait son prix de poésie, Artaud et Vronca, il était toujours là, sur ces journées internationales de poésie à Rodez, Jean Joubert. Il avait passé son enfance à Chalette-sur-Loing, donc dans ce département du Loiret, et voit peu à peu son village se transformer en banlieue industrielle de la ville à côté, qui est la ville de Montargis. Montargis, où il va faire ses études au collège. Alors de cette expérience, il restera marqué. C'est un thème qui est sous-jacent dans toute son œuvre, et plus particulièrement dans ce roman qui lui a valu le prix Goncourt en 1975, L'homme de sable. Pendant la guerre, Jean Joubert suit ses études au collège de Montargis. Il y découvre la poésie, il se met à écrire des poèmes. Il avait un oncle sabotier, mais un oncle qui était très proche de lui. Et ce sabotier, c'est lui qui va l'initier à la littérature et à la politique. Et en 1948, il déménage alors à Paris, où il entreprend des études de philosophie à la Sorbonne, avant de se tourner vers des études d'anglais. Et en 1953, il part préparer l'agrégation d'anglais ou à Montpellier. Il enseigne l'anglais au vieux lycée de garçons de Montpellier, puis au lycée Joffre. Et lors de cette rencontre avec l'Occitanie, avec donc ce sud de la France, Jean Joubert est resté émerveillé. En 1955, il se marie, à la même année paraît son premier recueil de poèmes, Les lignes de la main, qui obtiendra le prix Antonin Artaud, d'entrée, d'emblée. Il a ce prix Antonin Artaud. En 1958, il participe à la création de la revue littéraire Les Cahiers de la Licorne, avec d'autres écrivains comme l'écrivain de Montpellier, Frédéric Jacques Temple et Hent Berreker. À partir de 1962, c'est l'année où il a été nommé assistant à la faculté des lettres de Montpellier, Jean Joubert, il va s'installer dans un petit village près de Montpellier, s'appelle Guzarc. il va s'installer là, bien sûr, avec sa famille. Et il va rayonner. Depuis là, il va rayonner sur cette région, sur la poésie française, sur la maison de la poésie du Languedoc-Roussillon à Montpellier, parce qu'il y a une maison de la poésie à Montpellier, il n'y en a pas à Toulouse. Il est président de cette maison de la poésie. Et son œuvre comprend une quinzaine de recueils de poèmes, des livres pour les enfants, des romans, couronné par, j'ai dit, le prix Renaudot, hein, prix Renaudot pour L'Homme de Sable en 1975. Et on peut dire que Jean Joubert était avant tout poète. Et un peu comme Michel Cozem, je trouve qu'il y a vraiment des ressemblances, ce romancier, tous les deux préoccupés par la jeunesse, par l'enseignement, mais qui restent poètes jusque dans leurs romans. C'est vrai pour Jean Joubert aussi. Et il a été salué comme l'un des premiers poètes lyriques de sa génération. À sa mort, notre ministre de Culture, Fleur Pellerin, a salué une grande vie littéraire chez Jean Joubert. Alors, ce soir, je pense que le meilleur hommage qu'on puisse lui faire, c'est bien sûr de lire du Jean Joubert. Et alors, j'ai choisi, avec l'embarras du choix, bien entendu, mais j'ai choisi une publication d'Encre Vive, parce que il était très lié, bien sûr, à Michel Cozem, et puis que il a été maintes fois publié par Encre Vive. Alors j'ai choisi Retournement de la parole, parce que j'ai trouvé que c'était un très très beau titre, ça, le retournement de la parole, hein, qu'avait choisi Jean Joubert. Retournement de la parole. Éveille-toi, regarde. La nuit s'écarte, se replie. Et cet oiseau qui fuit avec un cri funèbre, tu ne peux le nommer, sinon de quelques sigles indéchiffrables. On dirait dans cette incertitude, encore de la lumière, que l'aube hésite entre douleur et espérance. Il y eut dans le noir d'âpres morsures, des gueules d'ogres et de loups, des méfaits, des fuites, des crimes. Il y eut le vertige au bord du gouffre, un grouillement là-bas dans l'ombre de poulpes et de rats. Voici enfin l'inespéré, un regard neuf, comme résurrection du regard de l'enfance sur un jardin d'amour où le bonheur s'ouvrait dans l'innocence de la rose. En cet instant d'éveil et de naissance, je t'ai rejoint, guetteur infatigable et visiteur enfin réconcilié. Nous voici réunis, après le long partage, l'un prisonnier des tourbes maléfiques où gisent, embrassés de même mort, le chasseur et le fauve. L'autre, tendu de toute sa pensée vers le sommet de l'impossible tour. Nous avons maintenant même cœur, même visage, et le soleil enfant dans le berceau des branches s'arrache rouge des ronciers. Après la nuit des gueules carnivores, des fuites et des râles, il n'y a plus de peur. Le sanglier qui, dans le noir, a labouré le seuil, est retourné dans sa tanière. Le hibou rassasié s'endort sur une cime et le renard s'est enroulé sur son rêve de sang. C'est l'heure du lilas, du lézard, des tourterelles, résurrection du cœur et du regard. Alors, on entre dans le jour, comme le cerf, longtemps traqué, s'avance dans l'eau du fleuve, puis, souverain, un instant, se retourne. Tandis que grogne loin et se disloque le jeu des anciens mots de poussière et de nuit, voici enfin retournement de la parole, comme une terre noire que la charrue partage, que le soc fend et verse, et, débourbé, ce sont de jeunes mots, des oubliés, qui s'arrachent et luisent dans la grâce du petit jour. Ils sont semences, ardeurs, promesses de moisson. L'œil les caresse, la main déjà les accompagne et le désir s'ébroue de l'arbre et de sa voix. Désir du vent de feuille en feuille, comme un murmure d'eau féconde. Et c'est encore l'enfant rêvé, l'enfant lointain, si proche désormais, qui surgit et se penche et boit le vent au creux de ses deux paumes. La mère, en robe blanche, le regarde. Une pivoine rouge éclot près de la grange, et dans l'allée, le fantôme du chat s'avance à pas de laine. Femme fougère à Sylvie de Paris. Elle me tend du bout des doigts, du bout des lèvres, doigts roses et lèvres rouges, le mot fougère, comme une clé, qui vite brille et vole vers la forêt d'enfance. Et voici qu'une porte s'ouvre sur un fleuve d'ombre et de feuilles, où le soleil naissant écrit une ode de lumière. Je te sais gré de ce pays bruissant de tourterelles, d'avoir déchiré la brume qui vêtait l'aube de la mémoire. Voici l'enfant sur la lisière. La vieille main le guide et se murmure, les loups ne sont pas loin. L'ogre est caché derrière un arbre noir, mais aussi ne crains rien. Les cailloux blancs semés jadis mènent à la maison. Sur un lit de fougère, dans le profond du bois, l'amoureuse gémit. Arbre fendu, soupir et sève, odeur de femmes et de feuilles mêlées à, si lointain, le corps ardent et le visage que sur la page ici rêvée ressuscite la parole. La femme fourrée sur la terre étendue, l'indolente, la voluptueuse, s'étire dans nos songes, chevelure de feuillage, ventre nu d'offrande et de douceur, et dans l'écart des branches, rosée, mousse et fougère. De l'ombre surgit le cerf, le souverain. Ses yeux s'étoilent. Il me regarde, hésite un peu, puis d'un élan s'arrache. Le jour décroît. Au loin, gronde la meute. La rage des tueurs est le déni du jour. fougères, enfants d'avril, comme des doigts de fée, des crosses tendres, des arabesques, hautes fougères de juillet, labyrinthe dans la forêt où l'on pourrait se perdre, toit de fougères de la hutte où luit la hache du bûcheron, l'homme sifflant lézard qui, familier, grimpe sur son genou et se fige, gorge battante. Un rouge-gorge enchante la clairière. Puis, dans l'hiver, fougère décimée, rouillie, piétinée par les tempêtes. Sur le silence, il neige, il a neigé. Neige sur la fougère, comme fourrure sur la gorge de l'aimé, et la terre endormie respire, enlace les racines, trame en secret la future naissance. Désormais, ni baiser, ni parole. Dans le sommeil, je pose sur tes lèvres l'offrande d'une fougère. Jean Joubert, retournement de la parole, petite montagne magique. Appelle-moi rêveur, sourcier, errant. Appelle-moi corps perdu, pêcheur d'images, quêteur d'étoiles. Me voici debout, un peu tremblant, sur le seuil encore incertain du poème. Je est un autre. J'ai longtemps habité la rive la plus basse, où s'étreignent la terre et l'eau sur des lits de sable. Territoire du cormoran, du colvert, de la mouette rieuse et des flamands, comme un jardin de roses. Au nord, à l'horizon, la montagne couchée respire comme une bête lourde, enceinte d'une énigme. À l'aube, un soleil rouge s'arrachait de la crête et, tout le jour, tonnait sur la rocaille. Le soir, parfois, brillait un feu énigmatique. J'imaginais là-haut, dans le désert, quelques bergers barbus parmi ces bêtes, mangeurs de vent, liseurs d'étoiles. Quel signe, quel invite. La vraie vie est absente, la vraie vie est ailleurs, alors il faut partir. Étroite est la passe, étroit le chemin entre les monts, où seuls quelques errants se croisent. Salut, salut! Celui qui monte et celui qui descend, avec même regard, même sueur et la parole rare. Celui qui descend va vers la mer et la maison, celui qui monte vers le secret des pierres, la solitude des étoiles. Au loin, dans la trouée, fume une ville vague. La brume noie les grues figées d'un port, quelques fantômes de cargo. Là, grouille un peuple nain, vorace et invisible. Je me détourne. Pays de pierre et de broussailles. Pour le repos, la cabane est de pierre. Table de pierre, banc de pierre, mais lit de paille. L'unique fenêtre accueille le ciel, pauvre richesse, elle me suffit. La nuit, dans une draille, coule un troupeau de sangliers, assoiffés de raisins. L'âne dans son enclos braie de solitude, et des chèvres ensauvagées dansent sous les étoiles. Un faucon a nidifié dans le cyprès, hibou, chevêche et pipistrelle tracent dans l'air de vastes courbes prophétiques. Sur la cime, l'abbaye. Dans cet enclos de pierres démembrées, Dieu est absent, mais le silence est Dieu. Et sur les crêtes, la lumière déploie des ailes bleues d'archanges. Dans l'abside, ce qui murmure, ce sont les voix du vent qui valent bien une messe, cantique et oraison. Là, dans l'estan, l'éternité repose. Silence du jardin dans ce désert, où, pour un peu, se glisseraient des fantômes de nonnes pour épeler ces noms, thym, romarin, sauge, sarriette, mélisse, menthe, marjolaine, artémise, absinthe, origan, serpolé, lavande, hélichryse, pour murmurer les mots de ce poème et d'une main transparente cueillir les simples, proposer leurs vertus et leurs parfums. Sur mon seuil, adossé à la pierre, j'ouvre le livre que le soleil caresse. Ce que je veux, c'est une goutte de vin couleur de rubis et un livre de verre et la moitié d'un pain, assez pour soutenir ma vie. Et si je suis alors assis près de toi, même en quelque lieu désert et désolé, je serai plus heureux que dans le royaume d'un sultan. Mais près de moi, le banc est vide, nul n'est assis, nulle main sur ma main se pose. Un lézard glisse dans la fissure, le rouge-gorge et le présent du jour. Sur cet humble buisson, extasié, seule compagnie de la rose. Alors, en écrivant ce poème, ce long poème, Jean Joubert fait allusion au lieu suivant, les Arresquiers, Vigla, Gardiole, Frontignan, 7, la montagne de la Gardiole, bien sûr, le Mas Rimbaud, et l'abbaye dont il parle, c'est l'abbaye Saint-Félix de Monceau. Et puis, les références littéraires, par exemple, quand il dit « ce que je veux, c'est une goutte de vin », etc., etc., et là, c'est un poème de Omar Khayyam. Il fait bien entendu allusion à Arthur Rimbaud quand il dit « jeu est un autre », où la vraie vie est ailleurs, et puis également, il cite un titre de Thomas Mann, voilà, dans Petite montagne magique de Jean Joubert. Et puis nous allons continuer toujours donc sur Jean Joubert. Les poètes, vous savez, les poètes ne meurent jamais puisqu'il y a toujours leur texte. Dans le bonheur des granges, moissons, n'oubliez pas le moissonneur, ni la sueur, ni la pluie, ni le vent. Et vous, miroir, souvenez-vous du sable, du feu et de la main. Dans vos enclos, nous ne voyons jamais que l'envers du visage et le reflet fugace des oiseaux. L'ailleurs nous fuit, le ténébreux, où se marient les monstres et les songes. Et comme le cristal égaré sous la grêle, nos yeux parfois se fêlent et se brisent. Jean Joubert, qui a été terriblement marqué de l'enfance, et l'enfance qui revient pour lui, hein, il a voulu écrire ses livres pour la jeunesse. Voici la maison d'enfance. Je pousse la porte grise. J'entre dans ce qui fut la cuisine, désormais sombre et vide. On dirait que dans le silence, l'air tendrement frémit, comme si volait au plafond un papillon ou une chauve-souris naine. Odeur d'ail et de rose fanée. Ici, il y avait la table et les trois chaises, et là, l'évier, le placard et la cuisinière. Une silhouette vague et comme transparente est assise immobile, puis se tourne vers moi, celle d'un homme qui lentement lève une main et dont les lèvres bougent. Mon père, je le sais, qui tente de me dire ce qu'il ne m'a jamais dit, qui en vain s'efforce de parler, mais je n'entends pas même un murmure. Enfin, comme une fumée que le vent tourmente, la silhouette tremble un peu et s'efface. Plus tard, je l'ai revu au crépuscule, sur la colline. Il marchait. Il portait sur ses épaules un enfant. Jean Joubert était pleinement mêlé à la vie de Montpellier. Il était président de la maison de la poésie et je sais s'il a été actif, s'il a fait beaucoup de choses pour le rayonnement de cette maison de la poésie et pour le rayonnement de la poésie à Montpellier. Mais c'était aussi un homme de la cité, un homme dans la cité. Et il a écrit un poème à la demande des organisateurs d'une manifestation de soutien à ces deux journalistes français, vous savez, qui avaient été retenus en otage en Afghanistan, qui étaient libérés depuis. Et ce poème a été lu par Jean Joubert sur la place de la Comédie, à Montpellier. C'était le 29 juin 2010. Voici ce poème qui est bien entendu dédié à ces deux journalistes, c'est-à-dire à Hervé Jéquière et à Stéphane Taponnier. Nous voici, vêtus de bleu, sur la lisière de l'été. Nous voici dans la liberté de la lumière, dans la liberté du mouvement et de la parole. Nous avons une famille, des amis, une maison. Nous avons table mise et le pain et le vin et des livres pour compagnons. Nous parlons de plaisir ou de joie et parfois même de bonheur. Mais sur l'autre versant, sur la sombre doublure de la lumière, ce sont chaque jour, dans le profond du jour, les images noires qui nous hantent. Violence, viol, meurtre, massacre, la justice étranglée, la liberté livrée au loup. Et nous voyons, au creux de leur prison, ces hommes entravés, dans un village poussiéreux, où rôde un vent de sable. Barreaux, chaînes, cordes et clous, dans un créneau sournois, l'œil du geôlier. Derrière les murailles, le cliquetis des armes et le seul bruit de bouches étrangères. Toujours la nuit, ni temps, ni lieu. Un présent piétiné, un avenir précaire et si lointaine la mémoire des visages. Pourtant, dans cette nuit, dans cet exil, il faut garder contre son cœur cet enfant de clarté que l'on nomme espérance. Et nous voici, vêtus de bleu, dans la liberté de la lumière, à proférer la parole et le cri, à espérer que la pensée et la parole apporteront aux prisonniers, nos semblables, nos frères, promesse enfin de liberté et de lumière. Et puis, épave métaphysique, c'est au capitaine Achab, in memoriam. Vieux spectre fatigué, tu te penches sur un gouffre sombre, silencieux. Il n'a plus rien à tirer de ces soutes où l'écume bâille. De quel port maudit, de quel âpre rivage est venu ce triste navire pour s'incruster ainsi brisé sur d'invisibles rocs? Et toi, qui parles de mémoire, de tempête, de quel droit t'es-tu sacré capitaine d'un tel fantôme? Dans des chasses ferventes, tu t'es jadis vanté de prises fabuleuses, dont les flancs écailleux brillaient d'un sombre orgueil. Tu célébrais, dans la fumée des bouges, des victoires sur les démons et les dieux, et te croyant maître suprême, tu as cru voir dans l'au-delà des songes ce qu'un ciel entr'ouvert laissait souvent percer de l'ineffable. Et te voici, vieil orpailleur dépossédé du feu, penché sur cette épave où grimace et sanglote une eau veinée de sang. Et juste pour finir, à Raphaël Ségura, le temps n'est plus des périples rusés en terres étrangères, des errances, des aventures, des soliloques sous la lune, dans des prairies lyriques. Nous sommes désormais enracinés dans nos tanières, vieux sangliers, mangeurs de raves et de rêves à la lisière de la nuit. L'immobile nous tient. Fermons les yeux. Tirons par les cheveux les filles égarées de la mémoire. Alors, sous nos paupières, s'arrachent de la boue d'austères paysages, des images rompues que l'on dirait griffées à coups de plume par un peintre fantôme. Pourquoi est-ce toujours une montagne qui nous hante, femme immense de pierre et de glaise étendue, gorge profonde, toison géante, falaise nue, où le soleil parfois rugit dans la lumière, et parfois c'est la pluie qui cingle l'horizon. Enfin, sur une pente ultime pèse le silence pieux de la neige. Là, nous hissons nos rêves jusqu'à la cime, au bord du vide. Nous suspendons nos pas, mais une voix pressée nous souffle « Toujours plus haut, continue de marcher !» Jean Joubert, retournement de la parole. Jean Joubert qui continue de marcher. Ainsi s'achèvent les poètes. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie, et nous vous disons à la semaine prochaine. À 10h.